nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Ils se voient souvent, elle et lui. Gilbert aussi voit souvent sa copine. Julien et Françoise vont en boîte, au cinéma et des fois le dimanche à la campagne. La raccompagne toujours chez elle, mais elle ne l'invite jamais chez elle. Il se dit, c'est une fille sérieuse, c'est pour ça. Se donne des baisers, mais rien de plus. Ils ne se disent rien sur leur amour ou plutôt leurs sentiments qu'ils ont pour l'un pour l'autre. La plupart du temps, ils parlent de choses insignifiantes. Un dimanche, qu'il se promène dans les bois, elle lui demande « Vous voyez toujours Gilbert ?»« Oui, bien sûr. » »« Et puis Nathalie ?» Elle lui dit « Oui, bien sûr, mais elle est assez décevante, vous savez. »« Ah, oui, il ne faut pas toujours croire à ce qu'elle dit. » Elle aime bien Gilbert, mais elle aime aussi d'autres compagnies. Il lui dit, c'est normal. Elle lui dit, oui, bien sûr, mais moi, je ne ferais pas ça si j'avais un ami. Il lui dit, Gilbert doit être au courant. Elle lui dit, non, surtout pas. Ça lui ferait du mal. Il est si sensible. Il se demande comment elle sait tout ça. Gilberte et à Julia. Ils en sortaient de temps en temps tous les quatre. Lui dit, je ne sais pas si Françoise voudra. Gilbert lui dit, c'est Françoise qui l'a proposé à Nathalie. Julien lui dit, bon, puisque c'est comme ça, oui. Mais ils sortent tous les quatre ensemble. Françoise dit à Julien, c'est Nathalie qui me l'a demandé. Elle s'ennuie un peu avec Gilbert. Alors j'ai dit oui. Julien trouve Nathalie peu sympathique. Et ah, c'est vrai, il y a eu cette histoire avec Gilbert qu'il a vu avec ce mec. Il se dit, pauvre Gilbert, elle le mène en bateau. Moi, j'ai de la chance d'avoir Françoise. Ne vaudrait-il pas mieux le prévenir? Lorsqu'il est seul avec Gilbert chez lui dans sa chambre, Julien lui demande, ça va? Tu es heureux? Pourquoi cette question? Comme ça? Avec Nathalie tout bête? Oui, pourquoi? Comme ça? Et toi avec Françoise? Moi aussi, merci. On a frappé à la porte. Entrez, c'est Maria. Monsieur, une jeune fille est venue et m'a dit. Enfin, elle voulait vous parler. Mais comme elle a su que vous étiez dans votre chambre, elle n'a pas voulu vous déranger parce que vous étudiez. Elle m'a dit de vous dire qu'elle est obligée de s'absenter quelques jours de Paris. Qui est cette jeune fille? Elle m'a dit s'appeler Françoise. Est partie depuis longtemps? Non. Je suis venu tout de suite. Vite, Julien, cours à la fenêtre. L'ouvre et vois Françoise sur le trottoir. Françoise! Elle se retourne, lui fait un signe et s'engouffre dans un taxi. Gilbert lui dit, un voyage urgent à faire? Julien ferme la fenêtre et dit « Où a-t-elle pu aller? Elle ne connaît personne. » Gilbert lui dit « Va chez elle, peut-être que sa bonne le sait. Oui, tu as raison, elle a peut-être besoin d'aide. Allez, on y va. » Et ils sortent de l'appartement. Une fois dehors, ils prennent la voiture de Gilbert. appelé Faubourg Saint-Jacques, il a arrêté la voiture devant la petite maison. Sorte de voiture. Ils vont vers le portail. Il y a un interphone avec trois noms. Julien regarde. Il n'y a pas son nom. Gilbert lui dit. Peut-être qu'elle a le nom de sa mère et sa mère celui de son mari. Julien demande. Qu'est-ce qu'on fait ? Gilbert lui dit. Appuie au hasard. C'est ce qu'il fait. Une voix demande. Oui ! Excusez-moi de vous déranger, madame, mais j'aimerais parler à mademoiselle Lande-Françoise et je ne vois pas son nom sur l'interphone.
Il n'y a pas ce nom-là chez nous, monsieur.
Vous en êtes sûr ?
Oui.
Elle a peut-être un deuxième nom, celui de son père. C'est une jeune fille, grande, mince, rousse. La voix lui dit.
Non, nous n'avons pas de rousse dans cet immeuble, ni chez les domestiques. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame. Julien, déconfit, lui dit. Alors, Gilbert lui dit, elle habite sûrement par là. Et pourquoi a-t-elle menti ? Gilbert lui dit. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a une honte d'avoir un logement modeste. Tu sais, les filles, sur ce sujet, c'est très fier. Julien lui dit. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ça n'a aucune importance. Je l'aimerais de la même manière. Je ne cherche pas des filles riches. Gilbert lui dit. C'est comme ça ? Mais elle habite peut-être dans le quartier, un de ces immeubles, Julien lui dit. Lequel ? Tu le lui demanderas, Julien lui dit. Sûrement pas, je ne lui dirai rien du tout. Je ne veux pas qu'elle ait honte et se sente coupable. Je ferai comme si je ne savais rien, Julien lui dit. Alors, elle va continuer à te mentir, mais... Moi, je ne pourrais pas. Julien lui dit. On dit ça, mais si ça t'arrive de peur de la perdre, que tu l'aimes, tu le feras comme moi. Julien lui dit. Sûrement pas. J'aime pas les menteuses. Entre gens qui s'aiment, il doit y avoir une confiance mutuelle. Autrement, ça ne va pas et ça ne vaut pas la peine. Julien Pono lui dit. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Gilbert a pitié de lui, de le voir si désemparé. Il lui dit, il n'y a qu'à attendre, ne te fais pas de soucis. Elle reviendra à toi. La preuve, elle est revenue exprès te prévenir de son départ. Hein? Et elle est partie en taxi après. Pourtant, elle semblait très pressée. C'est la preuve qu'elle t'aime, non ? Julien lui dit, oui, et il retourne vers la voiture. Gilbert lui demande, on retourne chez toi travailler ? Oui. Ils entrent dans la voiture. Gilbert lui dit, c'est de ma faute tout ça. J'aurais pas dû te dire d'aller chez elle. Tu n'aurais rien su. Julien lui dit, vivre dans l'ignorance n'est pas bien non plus. Et où est-elle ? Gilbert lui dit, elle est où elle doit être, voilà tout. Et toi, où es-tu ? Julien hausse les épaules. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle reviendra. Gilbert lui dit, je suis sûr qu'elle va te téléphoner pour te le dire. Allez, cool, détends-toi. Elle n'est pas morte, alors. Françoise est allée à la gare, est allée au guichet. Un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Première ou deuxième classe? Première, pour aujourd'hui. Oui, le premier train. Le premier train part dans un quart d'heure, quai en 1. 800 francs. Elle lui donne sa carte qu'il met sur l'ordinateur et la lui rend. Merci. Elle se dirige vers le quai. Elle a juste une petite valise en cuir marron. Sur le quai, il y a du monde qui attend le train. Le train arrive. Le train s'est arrêté. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, il n'y a pas de TGV à cause du manque d'électricité. Donc, ils prennent des trains à vapeur avec compartiment. Elle entre dans un wagon de première classe, entre dans un compartiment vide et s'y installe. Entre dans le compartiment. Une vieille femme, grande, maigre, avec un manteau usé marine, un chapeau de même couleur. Elle porte un chemisier blanc très propre, un sac à main à la main. Elle se met en face de Françoise. L'autre personne est un homme grand, mince, cheveux châtains, rares. Il a des lunettes, des yeux bleus profonds. Il est distingué, porte un manteau marine. Lui aussi. Il a une mallette, genre mallette de médecin, en cuir noir. Il s'est assis à côté de la vieille dame. Et le train s'est mis en route. L'homme demande à la vieille femme : savez-vous, vous, à quelle heure le train arrive à Lyon ? Elle lui dit :
oui, 5 heures à peu près.
C'est long.
Oui.
Vous prenez le train ?
Elle lui dit, oui, je vais au Luxembourg, voir Monseigneur.
Quel Monseigneur?
L'évêque.
Ah.
Oui, j'étais sa gouvernante et j'ai gardé de bons rapports avec lui. Et vous, vous allez à Lyon souvent?
Peu. Depuis quelque temps, je connais de moins en moins de personnes là-bas.
Oui, les gens ne sont plus les mêmes. Ah, du côté du temps des Pontois.
Oui, du temps des Pontois, il paraît que l'on vivait bien. La villa va être vendue à la ville. Ils vont en faire un musée.
Quelle horreur!
Oui.
Les mouvements du train, la fatigue endort Françoise. Elle perd peu à peu connaissance.
J'entends des bruits, des voix.
Pendant qu'elle dort,
nous pourrions peut-être...
Non, surtout pas. Il faut d'abord que l'on prenne ce qu'il y a d'important. Elle l'a peut-être sur elle.
Oh, sûrement pas. Sûrement pas qu'elle est sur elle, parce qu'on a besoin d'elle. Sûrement pas. Elle est trop fine pour ça qu'elle ait ça sur elle. Elle s'imagine quand elle a laissé faire. Il y a de plus en plus de gens de notre bord qui sommes de partout, seulement de partout. Avant.
Il faut d'abord lui prendre, ensuite nous finirons avec elle. On ne peut pas en finir avec elle tant qu'on n'a pas ce qu'elle nous a pris, ce qui nous est important.
Réveil.
Le compartiment est vide. Son sac est près d'elle. Il n'a pas été touché. La nuit commence à tomber.
Déjà,
elle va bientôt arriver dans cette ville mystérieuse. Elle n'a ni faim ni soif, mais hâte d'arriver. Après une heure, elle arrive, le train arrive vers la banlieue de Lyon, une banlieue en ruine comme toutes les banlieues. Puis le train entre dans Lyon, la route de Vienne, le Rhône, Et il approche de la gare. Le train s'est arrêté en gare. Il fait nuit. La gare est sombre. Il y a du monde sur les quais. Les gens courent pour ne pas rater un train. Ou sortent de la gare. Elle est sortie de son wagon, épuisée. Ça sent la fumée, la ville lourde, l'air pesant. Elle suit les voyageurs devant le descend le passage piéton, arrive au hall de la gare. Il y a foule, de la lumière jaunâtre, c'est sale, triste.
Haute Zurich, son prier, changer de train. Meine Damen und Herren, bitte repérez-vous. Der Zug fährt weiter nach Flensburg-Basel. Der Reisende nach Fernhöhe-Solothurn, Haute Zurich, werden gebeten, umzusteigen.
Vite, elle sort de la gare. Elle prend la passerelle qui mène au centre commercial et descend place Carnot. La place est sombre et noire. On voit loin la rue piétonne. Traverse la place Carnot pour entrer dans un restaurant brasserie. Il y a du monde. Elle s'assoit à une table. Ça sent le tabac, l'huile bon marché, la bière. Les gens parlent fort. Ce sont surtout des hommes. Un serveur va vers elle. Vous désirez ? Elle regarde la carte et lui dit : une choucroute, une tarte aux pommes avec de la bière. Bien, mademoiselle. Il s'éloigne. Elle se dit qu'elle ne va pas s'attarder dans cette ville qu'elle n'aime pas du tout. Le serveur lui apporte son repas. Elle lui donne sa carte qu'il met sur son écran portable. Puis la lui rend et il s'éloigne. Elle commence à manger. La choucroute est fade et les saucisses ont un goût d'eau. On dirait qu'elles ont été mises dans de l'eau pour les gonfler. Une demi-heure plus tard, elle sort. sortie du restaurant, elle prend la rue piétonne. Il n'y a presque plus de monde. Les clochards commencent à venir s'asseoir sur les bancs. La rue est sale. On voit que les jeunes sont passés par là. Il y a des canettes de bière vides, du papier, McDo, des bouteilles de bière. Il y a des graffitis un peu partout sur les murs. Elle arrive place Bellecour, va vers l'hôtel Royal. Bel hôtel qui a été très cossu avant. Elle entre à l'hôtel. Entrée, elle va à l'accueil. Un homme, le concierge, habit bleu nuit. Madame, j'ai réservé une chambre au nom de mademoiselle Françoise Land. Elle regarde sur son ordinateur. Oui, madame, vous avez votre carte ? Elle lui tend sa carte. Merci. Il la met sur son écran et la lui rend. Chambre 250, premier étage. Il appuie sur une sonnette. Un jeune groom vient à l'accueil. Chambre 250. Le jeune dit à Françoise, si madame veut bien me suivre, elle le suit. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au premier. Au premier, ils longent un couloir. Madame, votre chambre. Elle entre. Ils entrent. La chambre est vaste, meublée Louis XV. Il a une montre. Voilà. Vous avez la vue sur la place Bellecour. Et la salle de bain? Il ouvre la porte. Elle est en marbre rose avec tout ce qu'il faut. C'est très bien, merci. Si vous avez besoin de quelque chose, vous nous téléphonez. Merci. Il pose les clés sur la table, danse, fait, sort de la pièce. Françoise soupire, enlève ses chaussures. Quitte son manteau, sa robe, et va dans la salle de bain. Elle n'en peut plus. Maman, que c'est dur tout ça. Maman. Que c'est dur tout ça. Une heure plus tard, elle est sortie de l'hôtel. Elle traverse la place Bellecour. prend la rue de la République. Une rue moche, avec quelques ivrognes qui crient, cassent des bouteilles. La rue piétonne est devenue dangereuse le soir. Le plan d'eau de la place de la République est plein de détritus. Les magasins et les cinémas sont délabrés. Enfin, ce qui reste. La rame de métro et les McDo ont ramené toutes sortes de faunes. François se dépêche de sortir de cette cour des miracles. Elle arrive enfin vers l'opéra. Là, l'esplanade où se trouve l'opéra et la place Louis Pradel est remplie de jeunes qui mettent des transistors à fond, qui crient, jettent des canettes à terre. C'est plein de détritus. Ça sent l'urine. Il y a toute une faune qui squatte l'entrée de l'opéra, venue du métro, qui empêche les gens d'aller à l'opéra. Les gens n'osent plus y aller, de peur de se faire attaquer. Musique tam-tam. On y danse, on y fait de la planche en bois, on crie, on insulte les passants, on pisse sur les arcades de l'opéra, c'est dégueulasse. La police ne fait rien, ne dit rien, on dirait qu'elle a peur des jeunes. François monte les pentes de la rue de la Poix-Rousse, les maisons sont délabrées de saleté, de graffiti, etc. La rue des Capucins pour monter une rue qui monte à brut. C'est sombre, ça sent mauvais. Lyon, capitale, patrimoine mondial de la santé. Elle pousse la porte d'un vieil immeuble lépreux de 3 étages. Et entrée. L'allée a un plafond en ogive. C'est sombre et éclairé d'une ampoule au plafond. Elle monte les escaliers en pierre, en colimaçon, jusqu'au 2e étage. Arrivée au 2e étage, elle frappe à la porte de droite. La porte s'ouvre. Un homme, maigre, grand, habillé de noir, cheveux blancs, prématurément blanchi, car son visage est lisse et jeune, il a de beaux yeux bleus, lui dit « Entrez ». Elle entre. « Bonjour, bonjour ». Elle est entrée dans une pièce carrelé de carreaux marrons. Les murs sont à la chaux, de grandes fenêtres en ogive. Meublés adviennent de vieux meubles costauds en bois de chêne ciré. Un banc coffre à droite de l'entrée. Une grande armoire à double porte en face. Une grande table, des chaises en bois, un fauteuil Voltaire, une bibliothèque. Tu es arrivé depuis longtemps. Non, je viens d'arriver. Juste le temps que je prenne une chambre à l'hôtel et je suis venu.
et lui dit « Viens ». Il l'amène au fond de la pièce, où se trouve une petite porte de bois. Il ouvre, entre. Elle entre. C'est une pièce bureau de taille moyenne, une grande table basse, une bibliothèque et deux chaises. Il s'assoit à son bureau. Elle s'assoit en face de lui.
Venu me voir, pourquoi ? Elle lui dit, je veux que tu me donnes le papier.
Pourquoi faire ?
Parce que j'en ai besoin.
Laisse tomber, c'est de l'histoire ancienne et c'est dangereux.
Elle lui dit, si tu dis que c'est dangereux, c'est que ce n'est pas de l'histoire ancienne. Il soupire.
Qu'est-ce que tu veux en faire ?
Il me servira de preuve. Je vais bientôt aboutir et ce sera fini pour toujours.
Ils en trouveront un autre.
Non, ils ne peuvent pas.
Je suis obligé de le faire. Autrement tout recommencera. Il lui dit.
Mais à rien. Ne s'est arrêté. Que comptes-tu faire ?
Le tuer.
Tu es folle. Ils vont tous être contre toi.
Avec le papier, ils ne pourront rien.
Je n'ai pas envie de te donner le papier. J'ai fait des recherches, tu sais. Ils sont partout. On ne peut même pas savoir qui est qui.
Donne-moi le papier, je t'en supplie, au nom de notre mère.
Laisse notre pauvre mère, si elle savait.
Mais elle aussi a essayé de faire quelque chose.
Oui, mais tu as vu.
C'est justement pour ça que je veux que ça s'arrête.
Il lui dit, écoute, je crois que le papier ne servira à rien. Et ne le tue pas.
Donne-le-moi.
Il lui dit, comme tu voudras, à la grâce de Dieu, tu es responsable de ce qui va t'arriver.
Il lui dit, il ne m'arrivera rien. Et je serai vengé.
Je vous aurai vengé.
Il soupire, se lève, elle aussi.
Et elle le suit. Il sort de la pièce. Et dans la grande pièce, il va dépeindre un tableau. C'est un tableau qui représente un homme de la Renaissance en buste. Met le tableau sur la table. Le retourne. Déchire la toile qui est derrière. Et sort une enveloppe jaunie. Tend l'enveloppe à la fille.
Tiens.
Elle ouvre l'enveloppe.
Merci.
Il prend le tableau pour le reposer au mur. Et va vers elle et lui dit,
tu as une bombe sur toi.
Elle lui dit, que je vais désamorcer.
Elle risque d'exploser sur toi. Attention, ils sont partout.
Je le sais. Mais ne t'en fais pas, mon frère.
Et que vas-tu faire ?
Je vais continuer mes recherches. Elle lui dit, bon, Il faut que je parte. J'ai à prendre le train demain matin. Tu veux pas rester ici? Non. C'est trop dangereux pour toi. Elle va faire la sortie. Il l'accompagne. L'embrasse sous la joue. Elle lui dit: ton regard a changé. Tu es moins préoccupé. C'est parce que j'ai bientôt fini mes recherches. Après, je serai libéré. Tu sens plus fort. Merci. Il l'accompagne jusqu'à la porte. Tu veux que je t'accompagne jusqu'à ton hôtel? Surtout pas. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, petit frère. Isauré lui dit: petit frère, je suis plus vieux que toi. Elle lui dit: pas pour ce soir. Tu es plus jeune que moi. Et mes cheveux blancs. Elle lui dit: de la neige prématurée pour mieux séduire. Il lui dit: pour séduire les vieux grimoires. N'ai jamais compris pourquoi tu n'as pas. Les femmes ne t'embrassent pas, ne t'intéressent pas. Il lui dit: et toi, les hommes? Elle lui dit: moi, je suis une mante religieuse. Allez, il faut que je me sauve, il se fait tard. Il s'embrasse encore. Et elle sort de l'appartement. Descend les escaliers. Et sort de l'allée.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.